s'il y a des gens qui viennent de se brancher et qui se demandent « Ouais, le rock'n'ball, c'est-tu passé? » Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 14h, on n'a pas joué de Blink-182. Il est 16h38. Restez aux aguets, restez à l'écoute. On ne sait jamais comment ça se passe dans la circulation. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés, quoi, dans la dernière heure. Ça commence-tu à se résorber un peu?
Non, pas tant, pour vrai. Je mentirais de dire que ça va bien. Là, c'est pas mal au rouge, un peu partout sur la capitale, direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a un bon ralentissement, direction ouest à la hauteur de Laurentienne, que ça se passe. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale. Il y a un ralentissement à prévoir aussi. Charest-Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est au ralenti. Henri IV, direction nord, c'est assez rare, là, mais il y a un beau ralentissement entre Charest et la capitale en ce moment, puis c'est assez dense, là. Plus haut aussi, dans le coin de Val-Bélair, à la hauteur de l'avenue industrielle. Si vous êtes sur Duplessis-Sud, vous allez chercher le pont vers la porte. À partir de Charest, il y a de la congestion. Sur Henri IV-Sud, ça commence à peu près à la hauteur de Quatre-Bourgeois. Ensuite de ça, bien, c'est la 20, direction ouest, là, où c'est congestionné. Entre la route du président Kennedy et Taniata. Dans le coin de l'Allemand, ça commence à se résorber. Là, vous vous rappelez qu'il y avait un accident tantôt de poids lourd. Là. Ça a été ramassé, donc tranquillement, pas vite, ça devrait se dégager. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
Véro, peut-être rappeler la triste nouvelle qui a été partagée par les policiers, le décès d'un très jeune enfant dans la région Québec.
Oui, un enfant de 8 mois dans le secteur de Saint-Sauveur. C'est un appel qui a été fait au 911 un peu avant 14 heures pour l'enfant qui est en arrêt cardio-respiratoire. Les premiers policiers qui sont arrivés sur place qui ont tenté de procéder à des manœuvres de réanimation. Ensuite, les paramédics ont pris le relais. C'est sous escorte policière qu'on s'est déplacé du côté du centre hospitalier. Malheureusement, on a constaté le décès de l'enfant à l'hôpital. Comme c'est un enfant de moins de 6 ans, il y a automatiquement une enquête qui a été ouverte.
Si vous aviez une télé au bureau, vous avez probablement vu ça en continu depuis l'heure du midi. Ce qui se passe du côté de Matane, les policiers ont donné quelques infos supplémentaires dans les dernières minutes?
Oui, on a confirmé qu'un peu avant 9h15 aujourd'hui, les policiers de la SQ ont été appelés à se rendre à l'école secondaire de Matane parce que deux personnes auraient tenu des propos menaçants liés à l'utilisation d'une arme à feu à l'école. L'opération policière, qui a quand même fait appel à plusieurs corps de police là, à l'extérieur de celui de Matane, a fait que les jeunes se sont retrouvés confinés pendant à peu près 3 heures. On a ensuite de ça fait un déconfinement graduel. D'ailleurs, il est complété, de même que l'opération policière, les étudiants, le personnel de l'école qui ont quitté en toute sécurité. Il n'y a personne qui a subi de blessure. Il n'y a pas d'autres détails. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'origine de ces menaces-là? Est-ce que c'était sérieux? Est-ce qu'il y a des accusations, sinon de méfaits qui vont être portées? Ça reste des informations à confirmer.
Je sais qu'Audrey a préparé un petit quelque chose là-dessus, puis c'est un drôle d'adon parce que j'ai eu une conversation intéressante avec un ami récemment. Bon, une conversation, on s'envoyait des messages vocaux chacun de notre bord.
Bien sûr.
Non, mais on dirait qu'il y a bien des parents qui voient venir ou qui rêvent de voir venir le jour où les jeunes vont sortir du nid, hein? Voler de leurs propres ailes. Puis non, pas nécessairement Tanguy, c'est juste que quand t'es parent, il y a des moments où tu te dis, ouais, ça va être le fun, hein? Quand les enfants seront partis, on va recommencer à avoir du temps.
Dans quel âge, toi, tes enfants déjà?
On va pouvoir faire des voyages, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça.
Ils ont quel âge, tes enfants?
Ils ont 8 ans et 10 ans. Pourquoi?
J'espère que tu ne penses pas à ça.
Là?
Oh, il y a des, y a des, j'ai l'impression que tout le monde, à un moment ou à un autre, dans sa vie et dans sa carrière de parent...
C'est sûr.
Oui, des fois, ça fait du bien de se projeter un 8, 10, 12, 15 ans en avant puis de dire, ben à un moment donné, la situation va changer et on va finalement retrouver du temps qu'on perd dans une certaine mesure à partir du moment où on a des obligations parentales.
Est-ce que ça se fait encore commencer un trousseau pour envoyer un message à ses enfants?
Ben oui. Moi, mon trousseau, il a commencé jeune, m'a
dit. Ah oui?
Sa première clé à 9 ans, tu sais.
Non, pas ce genre de trousseau-là. Le trousseau pour que tu partes en appartement, genre, je t'ai ramassé de la vaisselle. Regarde les belles nappes qu'on va mettre dans ton trousseau pour quand tu vas quitter pour ton premier appartement. Ben oui.
Ton tapis de douche.
Mais même s'il y a des parents qui rêvent de voir venir ce jour-là, puis c'est ça qu'un de mes amis me disait, c'est « Hey, on a rêvé à ce moment-là pendant des années, puis là, je constate que ça arrive, puis le trou est tellement grand qu'on réussit pas à le remplir. Puis, mettons, je pensais que j'allais me retrouver avec ma blonde puis qu'on allait, tu sais, alors que on est ensemble, on a du temps, mais on se retrouve trouve pas.
Il y a des séparations qui viennent avec ça.
Oui, oui. Puis je veux pas exagérer, puis je veux pas dramatiser, mais je pense qu'il y a de la dépression, de l'alcoolisme.
Totalement.
Je pense qu'il y a bien des choses qui peuvent embarquer quand on voit pas venir ça comme une épreuve, la journée où les enfants s'en vont. Parce que si on voit juste le côté rêve puis qu'on idéalise la patente en tant que parent...
C'est un coup de pelle.
Je pense qu'il y en a quelques-uns. Puis moi, ça, je l'ai réalisé quand je suis parti de chez nous. Quand je suis arrivé dans le sous-sol de la résidence où je m'en allais rester pour le cégep, moi, j'étais fier en tabarnouche. J'étais nerveux, j'étais content. J'arrivais avec mes valises. Puis à un moment donné, je me vire de bord. Puis je vois ma mère qui fond en larmes, comme j'ai jamais... Hey, ma mère s'est battue contre un cancer, j'ai jamais vu broyer de main. Je l'ai vu à des funérailles, puis je l'ai jamais vu broyer de main.
Mais là, t'es parti à 40 minutes de chez tes parents, vivre dans ton premier appartement, puis ça y a brisé le cœur.
À l'âge de 36 ans. Non, c'est pas... non. J'avais... Quand j'ai quitté, j'avais 16 ans, puis je me souviens que ça m'avait marqué parce que je comprenais pas.
Ben...
Je comprenais pas pourquoi ma mère réagissait comme ça alors que moi, j'étais
fier. C'était une belle étape pour toi.
Ben oui, ben oui. Puis je te dis, là, ça coulait comme le fleuve Saint-Laurent, là.
Ben, c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Puis le nid est le nid familial, vous comprendrez. Donc, c'est ce qu'un parent peut ressentir au départ de ses enfants de la maison, du nid familial. Quand le parent, justement, se retrouve seul avec lui-même, souvent, les parents, ça fait longtemps qu'ils se sont pas retrouvés à se prioriser, tu sais,
non,
par rapport à leurs enfants.
Leur vie a été tellement centrée, tellement décidée autour de leur enfant que j'imagine que tu as une perte de repère qui vient
Mais
avec
oui.
ça.
Puis là, vous comprendrez que je suis loin d'être petit, fait que j'ai appelé la nôtre, Caroline yeah! Gagnon, notre psychiatre, puis elle avait quand même des aspects intéressants à mettre de l'avant. Tu sais, pourquoi c'est si difficile de faire la transition entre la vie familiale et la vie sans enfant pour un parent?
Ceux qui l'ont vécu en passant, le 418 vaincu et vécu, un petit peu des deux, mais ceux qui l'ont vécu, comment ça s'est passé pour vous autres? Je suis curieux. 418-971-1021. On écoute Caro.
Parce qu'on est dans une société où on surinvestit le rôle de parent. On est parents mur à mur. On se présente à quelque part, on dit « Ah, moi, je suis une maman, j'ai deux enfants. Ah, moi, j'en ai quatre. » On s'investit et on s'identifie au rôle de parent. C'est très bien d'être un bon parent. Ça, c'est sûr, c'est adéquat. Mais le dosage, encore une fois, si je ne pense qu'à ça, être maman 24 heures sur 24, c'est sûr que quand mes enfants quittent le nid, je n'ai plus rien.
Je sais que je suis pas une maman, mais je me reconnais tellement là-dedans.
Ben oui, puis tu sais, elle parle en tant que maman, mais je veux dire, ça s'adresse à tout parent. Tu sais, tu perds un peu ton identité, puis un peu ce qu'elle dit au final, c'est que c'est important de te définir comme personne, sauf que c'est tellement dur.
Quand t'as pas de temps.
Ben c'est ça.
Tu sais, comment veux-tu te définir comme personne quand tout ce que tu fais c'est du lavage puis de la vaisselle, tu sais?
Il y a
des... parce que pour vrai là, tu sais, il y a des fins de semaine que c'est juste ça là. Tu sais,
Non, ok, du petit.
Ben oui.
Après ça, ben, faut que tu remettes la maison à l'endroit.
Tu t'en vas à l'activité A, puis après ça, c'est l'activité B, puis après ça, tu prends l'heure et demie qui te reste dans la journée pour essayer de faire un peu de ménage, un peu de lavage. C'est le côté qu'on met jamais sur Facebook de la vie de parent, là, mais ça prend une grande place. Puis c'est drôle, il y a un texto qui vient de rentrer, Audrey. Ma fille de 20 ans déménage à Québec cet été. On demeure à Trois-Rivières. Ça doit faire un an que je me dis que j'ai hâte. Quand elle a signé son bail la semaine passée, j'en ai braillé un coup.
Ben, oh, j'ai eu un frisson. Pis c'est tellement normal. Puis ça me rappelle des souvenirs parce que tantôt, tu parlais de ta mère qui était décomposée quand tu es déménagée dans ton premier appartement.
Ouais.
Je me souviens aussi que la séparation avec mes parents a été quand même assez difficile. Puis au début, ben, on se parlait tous les jours. T'sais. Puis à un moment donné, ben, comme enfant, c'est sûr que tu développes pas une culpabilité, mais presque, tu as l'impression que tu abandonnes un peu ton nid familial.
On parle de maman. Il y a un papa qui vient de nous écrire, Simon. Il dit « Pire jour de ma vie, ma grande fille qui part de la maison. Oh. Aujourd'hui, je pleure encore en me souvenant quand j'ai mis la dernière boîte dans son auto. »
Oh mon Dieu! Le cœur qui brise. Ben regarde, j'ai demandé à Caro, je pense qu'on va y sauter tout de suite. Là. Est-ce qu'il y a des trucs, peut-être, quand ça arrive, pour s'en sortir, pour toi, pour ton enfant? Oui, sûrement. Puis pour se préparer, peut-être.
C'est drôle parce que je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, puis je l'avais pas réalisé. Je viens de le réaliser. Je vais embrayer une petite shot, là.
Hein, toi, tu vas tellement... Oh, mon Dieu, toi, il va falloir te consoler, là.
Ouais, là, il faut que je commence à me préparer, là.
Ça va être épouvantable.
Je pense que je vais écouter ce que Caro a à nous dire. Là-dessus, on en avoir besoin.
Ma suggestion, c'est de ne pas parler aux enfants tous les jours. Laissez votre enfant vivre ses expériences. Laissez-le venir à vous quand il y aura besoin. Mais essayez pas trop d'être dans sa bulle, parce que là, il crée sa vie d'adulte. Mais l'objectif, c'est qu'eux se définissent comme êtres humains avant d'avoir des bébés. On ne veut pas recréer le cycle. Tu comprends? On veut que ces jeunes adultes-là s'identifient avant d'être en couple, d'avoir des enfants. On veut qu'ils sachent un peu plus qui ils sont, parce que c'est ça qui a manqué chez l'adulte, chez le parent. Donc, il y a quelque chose dans le cycle. Donc, si on ne veut pas surmaterner les enfants, parce que là, le nid vide, il est plus vide si j'appelle mon enfant à chaque demi-journée.
Oui, mais là, on rentre dans un paradoxe éternel de dire « Oui, j'ai hâte que mon enfant vole de ses propres ailes », mais on a parlé de surparentage hier avec notre ami David Desjardins dans un autre dossier puis dans une autre réflexion, mais ça revient un peu au même.
On les couvre, nos enfants. Ben oui, ben puis Caro me disait dans les trucs, puis là, c'est tellement banal, puis je dis pas que c'est facile à faire, puis je suis imposteur, j'en ai pas encore. Mais repensez à ce que vous aimiez faire quand vous aviez 18-20 ans. Ça a l'air super anodin, mais tu sais, qu'est-ce qui vous définit comme personne? Essayez des nouvelles affaires. Puis pas que c'est facile les premiers temps, mais t'as pas le choix à un certain point parce que sinon, tu t'en sors pas de ce syndrome du nid vide-là. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'il y en a qui s'en sortent juste jamais, qui attendent que leurs enfants aient des petits-enfants pour recommencer à être dans le rôle de parents une deuxième fois, tu sais, qui sont pas capables de se définir autrement, finalement.
Audrey?
Oui.
Ta mère vient d'écrire.
Arrête!
J'aurais bien aimé avoir l'occasion de pleurer lorsqu'Audrey est partie au cégep à Jonquière, mais j'étais trop occupée à consoler son père. Il a pleuré de Jonquière à Montréal.
Impossible, je ne savais même pas
Tu le savais pas?
Je ne savais pas que mon père avait eu de la peine.
Mais maintenant, tout le monde le sait.
Hey! Oh non, ça me rend triste. Que ma mère ait de la peine, ma mère est broyarde comme moi, c'est normal.
Ouais.
Mais que mon père ait de la peine, ça me rend toujours dedans.
Ta mère plutôt, vous êtes pareil. Quand quelqu'un d'autre a de la peine, vous autres, vous mettez votre peine de côté.
Jonquière à Montréal, c'est une run de lait à pleurer.
C'est longtemps.
Manque de liquide dans le lave-vite, là.
Et de voir tes parents tristes, justement, puis je trouve que le lien est parfait, bien, ça peut avoir des impacts sur les enfants. Ce syndrome du nid vide-là chez le parent. Je vous laisse écouter Caro, c'est quand même assez frappant, là.
L'impact sur l'enfant, en fait, c'est qu'il va se sentir coupable de faire sa vie. Il va se sentir obligé d'appeler régulièrement les parents, de donner des nouvelles, faire un FaceTime, etc. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si vous avez actuellement 21, 22, 23 ans, vous venez de quitter vos parents, c'est correct, c'est parfait. C'est ça la vie, c'est le cycle de la vie. Donc, ils vont se sentir coupables, ces jeunes-là, et c'est possible qu'il y ait de la difficulté à trouver leur liberté. Moi, j'encourage tout le temps un jeune qui me parle de ça, à prendre un temps de qualité avec son parent, s'installer, puis en disant « je t'adore ». Tu sais, t'es ma mère, t'es mon père, c'est super, ou les parents, je vous adore, mais je me sens coupable d'être occupée cette semaine, de faire mes trucs. J'ai une culpabilité par rapport à vous, de le nommer. Il faut le dire. Et le parent, s'il est bien vigilant, il saura bien répondre à cette culpabilité en disant « oh, tu n'as pas à être coupable ». Tu fais ta vie.
C'est tellement pas évident, par exemple. Puis on est ingrat sans le constater. Moi, mes premières années à Québec, là, t'sais, je les aime, mes parents, là, mais j'ai été une couple d'années, je donnais pas des nouvelles souvent. Là.
Ah, mais je te comprends, je suis très indépendante aussi. Je dis souvent que je suis une mauvaise fille, une mauvaise amie. J'ai pas l'entretien facile à ce niveau-là. Mais c'est important peut-être d'avoir un lâcher-prise parce que c'est vrai que c'est leur future liberté. Puis au final, tu sais, le but ultime, c'est que nos enfants soient heureux sans nous, j'imagine. Hey. C'est qu'ils soient capables de voler, c'est cliché, de voler de leurs propres ailes.
Ben là, je veux pas faire de nombrilisme, là, mais quand moi, ça va m'arriver, je vais avoir besoin de tous vous autres, OK?
Mais c'est sûr!
Denis va nous appeler à tous les jours, les jours!
Mais là, il y a énormément de gens qui nous racontent leur expérience, puis je veux prendre le temps de faire le tour de quelques témoignages parce que je trouve ça révélateur puis intéressant en même temps. Julie qui nous écrit « Mon gars est parti pour Jonquière pour aller jouer au football au mois d'août. J'ai tellement pleuré et j'en pleure encore parfois. Il revient tous les week-ends, mais souvent pour aller chez sa copine et vient faire un petit tour ici, ramasser de la bouffe. Faut apprendre à le laisser partir. Le plus difficile, c'est pour le petit frère de 15 ans. Il nous disait la semaine passée, « Vous avez un autre fils, moi j'ai juste un frère. » Pas toujours facile.
Moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile pour vrai quand je suis partie à Jonquière. Laisser mon petit frère derrière.
Ouais. Nous autres, c'est weird. Je pense que ma soeur était contente de me voir partir. Moi, j'étais content de partir. Puis on dirait que ce temps de distance-là, on a recommencé à s'apprécier un peu plus et à avoir de bonnes discussions frères-sœurs qu'on n'avait pas nécessairement quand on restait dans la même maison.
Bien, tu vois, moi, j'ai l'impression que ça nous a plus... Puis éloigné est peut-être un gros mot, mais j'ai l'impression que ça nous a plus éloigné qu'autre chose dans le sens où...
Rendu plus indépendant l'un de l'autre,
ben,
même.
Oui, parce que, tu sais, lui était dans un moment où il débutait son adolescence, puis peut-être qu'il avait... En tout cas, j'ai l'impression besoin de moi à un certain point. Puis moi, j'avais ce sentiment-là d'abandon par rapport à lui, tu sais.
La face de mon père quand il m'a laissé dans un 4,5 miteux dans Saint-Sauveur à Québec. Je partais de l'Abitibi, j'avais 17 ans. Mmh. Plusieurs années plus tard, ma mère m'a dit qu'une fois assis dans le char, mon père avait cassé puis qu'il avait pleuré toutes les larmes de son corps.
J'imagine, tu sais, t'es comme... Elle était si bien à la maison, cet enfant-là, puis là, elle se retrouve dans un appart tout croche, dans un drôle de quartier.
T'es impuissant, mais en même temps, ce qui est spécial, c'est que oui, c'est tout croche, mais c'est ce qui te forge. Tu sais, je pense que... Tous et chacun, nos expériences respectives de jeunesse un peu boboche, c'est nos plus beaux souvenirs, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est, tu sais.
Prise de conscience, peut-être, pour les jeunes adultes égoïstes que nous sommes parfois. Joey qui nous écrit, puis c'est beau.
Ouais.
J'ai 34 ans. J'ai toujours, la majorité du temps, appelé ma mère chaque semaine depuis les 10 dernières années. Oui, des fois, ça me tentait pas, ou je trouvais ça lourd. L'an passé, on a appris qu'elle avait un cancer et suite à des complications, en 30 jours, elle nous a quittés. Prenez le temps de leur parler, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est sûr que ça fait réfléchir, ça fait mal des fois de le constater dans des circonstances comme ça. En vieillissant, on le réalise peut-être un peu plus là, que notre vie, c'est du temps emprunté, là, puis on commence à voir peut-être le sablier défiler un petit peu plus. Là. Mais c'est beaucoup de sentiments, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont surpris peut-être. Puis ça, je ne l'ai pas vu encore nécessairement, mais je pense qu'il y a des parents qui sont surpris eux-mêmes de leur réaction, de casser de même émotivement.
Je pense que ça va être préparé, savoir à quoi s'attendre.
Les papas de génération-là, le broyer, là, ça fait pas ça normalement. Là.
Mais c'est un deuil à quelque part quand tu y penses.
Ben, c'est parce qu'il faut que ça les prenne de court en tabarnouche pour qu'ils soient pas capables de faire ce qu'on demandait à nos pères. T'sais. Hey, montre pas d'émotion, t'es pas un vrai homme si tu pleures, puis toutes les niaiseries qu'on nous disait dans
mais
le temps.
Mais moi, je
t'sais.
Crois que les hommes pleuraient quand même juste
en cachette. Oh oui, oh oui.
Fait que tu sais, ça ressort aujourd'hui, puis c'est peut-être un peu mieux.
Aïe, aïe, aïe. Denis, tu seras jamais assez préparé. Pense pas à ça aujourd'hui. Si moi, j'en pleure à y repenser. Mon père, de 8 décennies, en a fait une dépression. mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est des charges et émotives qui sont...
étape de la
vie.
Mais même pour les enfants, c'est difficile. Tu as toujours eu ce nid confortable-là où tu avais l'impression que tu avais des piliers autour de toi, littéralement, dans la même bâtisse.
Mais à la place où atterrir, s'il se passait quoi que ce soit.
Mais c'est ton filet. Il y a quelque chose de beau là-dedans en même temps.
Avez-vous déjà pensé à retourner chez vos parents?
Non.
T'sais, parce qu'il y en a pour qui, comme nous autres, ça va être une étape à sens unique. Il y en a d'autres qui, souvent, quand c'est dans la même région ou après un moment difficile, vont revenir puis que ça va être comme, justement, ça va demeurer le point d'ancrage au cas où.
Je suis pas un gars très débrouillard. Je suis un gars relativement dépendant. C'était important pour moi de jamais retourner chez mes parents. Je les adore. Mais moi, un coup parti, puis je me suis donné un coup de pied dans le cul à 16 ans, entre autres pour... me forcer à faire des choses moi-même. J'étais très couvert chez nous. Il y avait plein de choses à faire, puis c'est mes parents qui s'occupaient de tout. Puis là, je le réalise à quel point j'étais un fils ingrat. Mais c'était comme un no way back.
Même chose.
Même chose.
Oui, puis tu sais, il y a certaines périodes dans la vie où tu...
Je sais qu'ils sont toujours là.
Tout à fait. Puis c'est ce qu'ils m'auraient accueilli. Mettons, si on se remet dans la vingtaine, là, après l'université, si je ne m'étais pas trouvé un emploi ou après une séparation, si j'avais décidé de retourner dans la région, puis je le sais qu'ils auraient été là. Ils ont gardé mon frère tellement longtemps. Mais moi, on dirait que question d'orgueil, c'était impossible pour moi. Puis tu sais, encore aujourd'hui, l'aide de mes parents le moins possible. Comme si, hey, je suis une adulte, c'est à moi de m'occuper de vous quand vous venez à la maison. Puis on dirait que ça, là, c'est hyper important pour moi. Là.
En rafale, d'autres textos. Hey, merci en passant. J'aime tellement ça, avoir ces conversations-là en ondes, parce que vous vous ouvrez beaucoup. Si on était rien que nos trois, ce serait pas le fun. Mais
c'est
vous
des
faites,
longs textos.
Oui. J'ai 38 ans. Ça fait 7 ans que je reste à Québec, et à toutes les fois que mon père repart de la maison après une fin de semaine, il a les yeux pleins d'eau. J'avais autre chose, là. Je veux le retrouver.
Celui-là, je le trouve malade. Je suis très proche de mes parents. Parfois, ma mère se prive de m'appeler pour ne pas me déranger. Au bout du compte, mon chum leur a demandé s'il ne voulait pas aménager derrière chez nous. Oh. C'est tellement un privilège de voir les grands-parents.
J'ai eu ce privilège-là dans les dernières années. Mes parents sont venus donner un coup de main parce qu'on avait une situation particulière. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'avais un gros sentiment de culpabilité de dire, tu sais, je vole la retraite à mes parents. Puis ma mère m'a toujours dit, tu m'as pas volé une retraite, tu m'as donné du temps avec mes petits-enfants, tu sais, puis du temps avec toi. Puis ma mère, je sais qu'elle fait ça, là. Ce que l'auditeur disait, là. Se retenir d'appeler « Ah, je veux pas vous déranger, puis je le sais que c'est exigeant, puis tout ça, puis donnez-moi des nouvelles quand ça donne. » Mais je le sais qu'elle se retient, là. Je le sais qu'elle ronge son break les fins de semaine là, pour pas appeler.
Mais là, c'est la beauté de la chose avec les messengers, les textos de ce monde. Un petit message, ça dérange moins qu'un appel. Fait que je pense que c'est plus facile de garder le contact sans avoir peur de déranger.
J'essaie de retrouver le texto de l'auditeur qui dit... voyons.
Qui dit quoi?
C'est parce que j'ai beaucoup de misère à retrouver mes...
C'est pas lire,
mes textos, ouais, c'est ça, je suis illettré, puis là, c'est là que ça sort.
T'es trop petit?
Non, il y a quelqu'un qui nous disait tantôt, mon fils est dans la vingtaine, puis il travaille à 5 minutes de la maison, donc pourquoi partir dans ces circonstances-là? C'est le fun de l'avoir à la maison, puis on y met pas de pression. Par contre, ma grande fille, qui est dans les mêmes âges...
Ils font déjà un trousseau, puis elle cherche son appartement.
Ouais, fait que quand on dit faire un trousseau, c'est là qu'on les passe, là, les gros verres de coke qu'on sait pas où est-ce qu'on les a ramassés. Là.
Exactement.
Okay, quelqu'un écrivait tantôt la vaisselle brune des années 70, puis c'est vrai qu'elle m'a pas donné, on passait la vieille vaisselle là-dedans.
Maryse dit, le rêve de mon père serait d'acheter un jumelé, lui d'un côté, et mon chum et moi de
non,
l'autre.
Son garçon.
Son garçon, oui, pardon. Oui. Je suis vraiment désolé. Ça va devenir une nécessité pour plusieurs. Hein. On le sait, on est de plus en plus de personnes âgées qui vont avoir besoin d'aide dans une certaine mesure. On sait que le système de santé déborde. Il y a déjà des pays où c'est comme ça. Hein. Les parents reviennent vivre chez les enfants, puis vous voyez peut-être...
Au Japon, entre autres, c'est ça. Dans certains pays européens,
en Italie.
C'est prévu de cette manière-là.
Retour du balancier.
Moi, j'ai eu la conversation avec mes parents. Là, mes parents ont choisi de demeurer au Saguenay parce que mon frère est là, puis il y a des enfants, mais à un certain moment donné, c'était s'il se passe quelque chose pour l'un ou pour l'autre, vous venez avec moi, puis je m'en occupe, puis on s'arrange, puis on se trouve de quoi ensemble, tu sais, pour... Parce que je pense qu'on est de plus en plus conscient du privilège qu'on a eu. Si on est dans une société où on est en général assez choyé là, par nos parents, par l'encadrement puis toute l'équipe. Puis d'un autre côté, tu entends des histoires quand tu te retrouves en CHSLD, tu te dis « OK, je vais essayer de m'occuper de mes parents le plus longtemps possible ». En tout cas, moi, je le perçois de cette manière-là. Là.
Je suis retourné chez mes parents après une séparation, le temps de vendre ma maison et de me trouver autre chose. Disons que ça fait bizarre d'être passé, rester chez mes parents quelques mois. Puis en même temps, ben de sentir qu'ils sont là quand tu as besoin, puis sans abuser de dire « Là, j'ai besoin de ça pour rebondir, pour me restarter dans une séparation où les deux sont plus capables de se voir la face puis que ça devient explosif. Moi, je pense que c'est le bon réflexe puis c'est la chose à faire.
C'est toute qu'une affaire pareille, hein?
Ouais, je trouve ça le fun, pour vrai, de vous lire. Bon, quelqu'un qui nous écrit de mon côté, j'ai acheté la maison voisine des parents de ma blonde.
Très cool.
Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des gens que c'est des terrains voisins sur un camping pendant tout l'été. Il y en a d'autres que ça va être des maisons mobiles dans le sud pendant l'hiver. Il y a plein de façons de se retrouver d'une façon ou d'une autre.
Tu sais, moi, j'ai été longtemps très, très loin de mes parents. On était toujours au moins
géographiquement,
à 3 heures de route. Oui, parce que de cœur, on est très proches. Puis honnêtement, quand ils sont déménagés l'an passé dans le coin de Saint-Raymond. Mm-hmm. Je pense que c'est une des plus belles affaires, là, pour vrai, là, d'avoir à proximité la possibilité de se voir, de faire un petit barbecue la fin de semaine, d'entretenir cette relation-là qui est tellement riche. T'sais, si le moindrement tu as les valeurs familiales à la bonne place dans la vie, ben c'est nécessaire, je trouve, d'entretenir ces relations-là. T'sais.
Profitons de notre monde. Quand on sent qu'il y a de l'amour, quand on sent qu'il y a de la présence, il y a tellement de gens qui n'ont pas ça en partant. Puis préparons-nous, hein, parce que quand ça va partir, ça va faire mal. Je me parle pas juste à moi, là, je vous parle à vous autres aussi. 17h02 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de...